Cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre zone. Un écho des luttes sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde, autre zone.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Autre Monde, Autres Ondes, une émission proposée par Attaque 44 et je suis Agnès. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler des luttes féministes, des inégalités hommes-femmes et du masculinisme avec aussi un programme d'éducation EVAR. Éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Une émission à mettre entre toutes les oreilles. Nous sommes bien sûr Jet FM qui nous accueille comme habituellement. Cette émission sera animée par une intersyndicale avec Christine CGT Secteur Santé, Esther Sud Santé Sociaux, Marie Solidaire et Amélie du SNES FSU. On démarre avec une présentation de l'intersyndicale, on enchaîne avec quelques définitions et on pose le contexte de la masculinité.
On est les représentantes, toutes les quatre, de l'intersyndicale Femmes 44, qui est constituée de la CGT, de Solidaire et de la FSU. Moi, je suis Amélie. Et je suis donc au SNES FSU et je suis enseignante.
Alors moi, je suis Marie, je suis à Sud PTT et à Solidaire, salariée d'Orange, mais retraitée maintenant.
Moi, je suis Esther, je suis chez Sud Santé Sociaux parce que je suis éducatrice spécialisée et comédienne.
Et moi, je suis Christine de la CGT, secteur santé, mais retraitée.
Donc, tout d'abord, on souhaite présenter le travail de l'intersyndicale Femmes 44, parce que c'est un travail qui dure depuis plus d'une dizaine d'années. Il s'est d'abord organisé et incarné dans le travail unitaire que nous avons réussi à mener toutes ensemble autour des grandes mobilisations féministes en lien avec des dates internationales comme le 25 novembre, le 8 mars ou encore le 28 septembre sur la défense de l'IVG. Il s'est ensuite enrichi par l'organisation de stages annuel de formation, stages qui peuvent rassembler, ça a été le cas tout dernièrement, jusqu'à 170 personnes issues de nos trois organisations syndicales. Le point commun de tous ces stages, c'est d'analyser le continuum des violences que subissent les femmes au travail, mais aussi ailleurs. À notre connaissance, ce travail de formation intersyndicale sur les questions féministes n'existe qu'au niveau national, avec les journées intersyndicales qui se tiennent à Paris. Et nous, à Nantes, on est assez fiers, on doit le dire, d'avoir réussi à organiser pour la cinquième fois consécutive un stage qui a réuni beaucoup de travailleurs et de travailleuses. Donc, en octobre dernier, en octobre 2025, nous avons tenu notre cinquième stage qui portait sur la construction des masculinismes au travail et ailleurs, mieux les connaître pour mieux les combattre, c'était l'intitulé précis de notre stage. Les stages précédents avaient abordé les violences sexistes et sexuelles au travail et ailleurs, les discriminations femmes-hommes dans les carrières professionnelles et les impacts bien évidemment sur les rémunérations, les inégalités subies par les femmes dans la prise en compte et dans la prise en charge de leur santé au travail et ailleurs, et enfin la précarité économique subie par les femmes et les violences qui en découlent. Tous nos stages s'articulent autour d'une même organisation, sont pensés toujours de la même façon. Il y a une intervention, l'intervention d'une experte, généralement une chercheuse, une universitaire qui vient avec le fruit de ses réflexions et de ses travaux. Ensuite, on a l'intervention d'associations locales hein, qui peuvent constituer ensuite pour les stagiaires présents des ressources. Et puis, bien sûr, on s'appuie sur les témoignages des salariés présentes. Et les échanges, en général, sont nourris, sont riches et très fluides hein, entre nos syndiqués. Ce sont donc des journées qui font du lien et qui nous outillent, qui outillent les stagiaires, qui retournent ensuite sur leur lieu de travail, établissement ou entreprise, pour prendre en charge ensuite la question du continuum des violences des femmes avec lesquelles elles travaillent. Voilà pour la présentation rapide de notre travail intersyndical.
Alors, il nous a semblé important de définir le féminisme avant de parler des masculinismes. Alors, une précision, c'est qu'un certain nombre de citations, chiffres, références émanent du dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, donc du HCE, de 2025-2026, là, il vient de sortir. On définit le féminisme comme un ensemble de mouvements, d'idées politiques, sociales et culturelles, l'objectif étant de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, militant pour les droits des femmes et ce, sur un principe fondamental que les hommes et les femmes sont égaux et doivent être considérés comme tels dans la société. À l'opposé du féminisme, on va trouver l'antiféminisme, qui est un contre-mouvement s'opposant au mouvement féministe et cherchant à faire obstacle à l'émancipation des femmes. Selon Christine Barr, historienne, l'histoire de l'antiféminisme est aussi ancienne que celle du féminisme. Les deux ont évolué de manière étroitement liée. Ils cherchent à défendre l'ordre patriarcal, la domination des hommes sur les femmes et à promouvoir une conception traditionnelle des rôles de genre. Le masculinisme, quant à lui, ce n'est pas seulement du machisme, idéologie fondée sur l'idée que l'homme domine socialement la femme et qu'il faut en tout faire primer de supposées vertus viriles. Ce n'est pas non plus seulement du virilisme prônant le culte de la virilité. Ce n'est pas seulement de la misogynie, la haine, le mépris envers les femmes. Et ce n'est pas seulement non plus du sexisme, idéologie reposant sur le postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes, avec pour but de délégitimer, stigmatiser, humilier, voire violenter par des gestes, des propos, les fameuses blagues sexistes, les comportements, des coups, des viols et féminicides, et ayant bien évidemment des effets sur la santé des femmes, physiques et psychiques, sur la perte d'estime de soi. Ce sexisme a une double dimension, paternaliste, se caractérisant par un rejet des femmes, et qui se déploie sous un couvert de protection, de bienveillance, de valorisation des rôles traditionnels assignés aux femmes et aux hommes, en les enfermant dans des représentations stéréotypées de fragilité, de dépendance. Ça correspond quand même à peu près à une pensée de 23% de la population française, 27% d'hommes et 8%, 18% de femmes. Et un sexisme hostile qui là prône la dévalorisation systématique des femmes, méfiance à leur égard, justifiant des comportements discriminatoires ou violents, et qui traverse également l'ensemble de la société, 17% au dernier baromètre, 23% des hommes et 12% des femmes. Il existe une forte corrélation entre l'adhésion au sexisme hostile et certaines appartenances idéologiques ou religieuses, plutôt à droite ou à l'extrême droite. Et si le sexisme hostile constitue le terreau sur lequel prospèrent les idéologies antiféministes, le masculinisme en représente l'expression la plus structurée et la plus militante. Il est né en réaction aux avancées des droits des femmes et s'est structuré autour de la notion de la crise de la masculinité. Ce courant idéologique ne se contente pas de perpétuer des stéréotypes ou de minimiser les inégalités. Il construit un récit alternatif dans lequel les hommes seraient les victimes d'un système qui les discriminerait. C'est la mise en pratique de l'antiféminisme à travers des actions, des mouvements sociaux, des groupes de parole. Ce terme de masculinisme s'inscrit dans une stratégie fallacieuse de symétrisation avec le féminisme. Le féminisme, lui, lutte pour l'égalité des sexes. Le masculinisme refuse cette égalité et cherche à maintenir la domination masculine, bien entendu le patriarcat. C'est une idéologie réactionnaire, fondée sur la réaffirmation de la suprématie, pardon, sur la réaffirmation de la suprématie masculine. Elle repose cette idéologie sur trois postulats. Le premier, c'est le mythe « l'égalité est déjà là », rendant les revendications féministes obsolètes ou infondées. Elles vont trop loin, il faut les punir, il faut arrêter. Le second postulat advient par la théorie de l'effet pervers. Le féminisme serait allé trop loin, plaçant les hommes dans une position de victime. Et le troisième postulat autour de cette crise de la masculinité, décrivant les hommes comme fragilisés dans l'éducation, la famille ou les institutions. Et ce terme s'impose en France dans le débat entre 2012 et 2013 sous l'effet de trois dynamiques convergentes. D'une part, la manif pour tous contre le mariage homosexuel. Deuxièmement, l'action des groupes des pères séparés. On a bien connu à Nantes les pères perchés sur les grues, enfin le père perché sur les grues à Nantes en 2013. C'est le discours de SOS Papa. C'est nous les opprimés, les femmes ont plus de privilèges, la justice est aux mains des femmes, défendant une vieille idéologie de l'aliénation parentale. Les femmes manipulent les enfants contre eux. Et en troisième dynamique, c'est la diffusion accrue via des plateformes numériques, des discours masculinistes développés tout d'abord en Amérique du Nord et qui se développent ailleurs, bien sûr. Il y a des masculinismes, ils reposent sur une même idéologie, suprématie de genre, haine des femmes. Mais ce n'est pas un mouvement homogène, il représente une diversité de courants aux frontières poreuses. Pour Stéphanie Lamy, spécialiste des guerres de l'information et militante féministe, la spécificité de ces mouvements réside dans la capacité à mobiliser des individus à différents moments dans leur vie, s'appuyant sur les ressentiments et les griefs que les hommes peuvent éprouver. Mais ils ciblent en particulier les jeunes. Il existe bien sûr des convergences entre ces discours masculinistes et des idéologies réactionnaires actuelles, intensification de ces discours après l'élection de Trump, courants religieux traditionnels, montée de l'extrême droite. Pour certains courants, il ne s'agit pas seulement d'un discours sur le genre, mais d'un projet politique réactionnaire défendant une vision hiérarchique de la société, un ordre social traditionnel, hostile aux droits des minorités sexuelles et raciales et contre toute remise en cause des privilèges masculins. Ces discours sont diffusés par des moyens multiples, des sites web, associations, colloques universitaires, jeux vidéo, vente de formation, médias, culture d'un entre-soi masculin au travail. Les médias ont joué un rôle important dans les années 2000, selon Mélissa Blay, sociologue québécoise, en normalisant ces idées. On parle d'ailleurs de manosphère au sein de la sphère masculiniste, désignant un ensemble de communautés en ligne où des hommes se retrouvent entre eux pour parler de problèmes qu'ils considèrent typiquement masculins et ouvertement revendiquer certains stéréotypes de genre et une haine des femmes. Certains univers aussi vont jouer un rôle privilégié dans l'accès à ces discours, le fitness, la musculation, qui peuvent véhiculer des visions plus genrées, des corps pouvant conduire à des dérives viristes, dans la chirurgie, dans l'esthétique, les notions d'esthétique. Le milieu du gaming, une créatrice de jeux vidéo a été victime d'une vaste campagne de cyberharcèlement. Et quand on parle de la pratique du cyberharcèlement, on parle bien de chasse en meute, on apprend comment coincer les femmes, leur rendre la vie impossible, les forçant à déménager. Harcèlement envers les femmes, mais aussi envers des personnes racisées, LGBTQIA+. Alors ces courants sont pluriels. On ne va pas pouvoir être exhaustif dans cette émission, mais en tout cas, il est important d'en citer quelques-uns. On commençait par MG Tow, Men Going Their Own Way. Ils considèrent que toutes les femmes sont vénales, manipulatrices, les femmes et féminisme sont à la source de leurs problèmes. Les performatifs, qui pratiquent le fitness, les joueurs, gamers, ils apprennent mille et une façons de prendre sexuellement les femmes. Et un autre courant également, MRA, Men's Rights Activists, contre les avancées féministes, développant une rhétorique victimaire dont le mouvement des droits des pères est la branche la plus active, SOS Papa, dont j'ai parlé antérieurement. Il revendique des dispositions favorables aux hommes, notamment dans les situations de divorce, partage des biens, garde des enfants. Mais quand on parle des violences conjugales qui seraient à l'origine de la motivation du retrait de l'autorité parentale, là, bien sûr, silence radio. Ils prétendent que la violence conjugale s'exerce sur les hommes autant que sur les femmes. Ils demandent un système de codécision en matière d'avortement. On retrouve là l'obsession du contrôle du corps des femmes. Les Espagnols ont un mot d'ordre, nosotras parimos, nosotras decidimos, on accouche, on décide. Un autre groupe important, les incels ou célibataires involontaires, catégorie la plus médiatisée, dangereuse, ils se perçoivent comme incapables d'établir des relations sexuelles consensuelles. En prétendant des facteurs génétiques, des structures sociales, ils expriment une frustration extrême face à leur marginalisation affective et sexuelle, estimant que les femmes ne s'intéressent qu'au mâle alpha, conformément à la règle des 80 sur 20, selon laquelle 20% des hommes attireraient 80% des femmes. Ils glorifient la violence envers les femmes. Ils sont également impliqués dans des attentats et dans la violence de masse. Leur dangerosité est reconnue dans plusieurs États. Le Canada a qualifié certaines attaques de terroristes. Et au Royaume-Uni, où les services de sécurité considèrent l'idéologie incel comme une forme émergente d'extrémisme violent et misogyne. Mais les femmes ne sont pas en reste dans ce mouvement. Les tradwives, elles défendent le rôle traditionnel des femmes, de la bonne épouse, du retour à la maison, préparation des repas, éducation des enfants. Voilà. Toute notion qui va évidemment éloigner les femmes du monde du travail et de l'autonomie financière. Pour terminer, je vais illustrer un tout petit peu ces actions de ces mouvements masculinistes. Il y a eu un procès en fin de l'année dernière, le procès de Tiffany, qui est une comédienne, militante et féministe. Elle a été victime de cyberharcèlement. Et les 9 hommes accusés, et pour certains accusés d'appel au viol et au meurtre, ont été condamnés en novembre 2025. Des attentats. Il y a eu un attentat déjoué à Saint-Étienne, un jeune homme de 18 ans arrêté et soupçonné d'avoir projeté d'attaquer des femmes au couteau. C'était en juillet 2025. Et un attentat assez fondateur, on va dire, dans ce qu'on nomme les attentats masculinistes, c'est à Montréal, à l'école polytechnique en 1989. Un homme de 25 ans, il a tué 14 femmes et a blessé 14 personnes, dont 10 femmes. Il avait séparé les femmes et les hommes, mais à l'époque, cet attentat avait été défini comme l'acte d'un homme isolé, déséquilibré. C'est vraiment les réflexions des féministes et des chercheuses qui ont permis de qualifier cet attentat et ces actes d'attentats masculinistes. Et non le fait d'un individu complètement isolé. Qualification tout de même tardive au bout de 25 ou 30 ans. Il est important de se rappeler, le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours et le masculinisme aussi. Et ce phénomène se développe malheureusement à des degrés divers sur tous les continents, USA, Europe, Asie, Afrique, et traverse l'ensemble de la société.
Vous êtes toujours sur Jet FM, vous écoutez l'émission sur les luttes féministes, les inégalités hommes-femmes ainsi que les conséquences néfastes du masculinisme dont il faut bien comprendre les mécanismes pour mieux s'en protéger. Ces dames de l'intersyndicale savent aussi chanter et nous allons écouter un chant de l'Internationale des femmes à la gloire des femmes en deuil. Ensuite, nous poursuivrons avec les chiffres sur les inégalités hommes-femmes et aussi toujours sur le masculinisme.
Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores venues jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Je chante leur douleur, qu'elles perdent de mère ou père de fils. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes vaillantes, à la gloire des femmes en or venues jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes piliers. Je chante leur bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes coriaces, à la gloire des femmes trésors, unies jusque devant la mort.
Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes fragiles. Je chante la peine de ces colosses aux pieds d'argile. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en pleurs, à la gloire des femmes que j'honore, et ce jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores, unies jusque devant la mort.
Donc les masculinistes disent non seulement que l'égalité est atteinte, mais qu'on est actuellement sous la domination des femmes et que les hommes sont de fait menacés dans leurs droits et dans leur position dans la société. Donc nous, on est syndicalistes, alors nous sommes allés regarder dans les chiffres d'abord du travail. Donc les chiffres que je vais annoncer ont été récoltés dans les clés d'égalité, les chiffres du Haut Conseil à l'égalité et l'ADRES. L'ADRES, c'est la Direction de la Recherche, des Études de l'Évaluation et des Statistiques. Et là, on s'est aperçu que non, l'égalité est un objectif encore non atteint. On a regardé le taux d'emploi des femmes en France, qui était de 54% en 1975 et, pour les femmes, et de 77% pour les hommes. Et donc en 2023, on est arrivé à 71% pour les femmes. Donc on a quand même, on est passé de 54 à 71, mais on est resté à 77% pour les hommes. Donc on est encore sur une égalité qui n'est pas atteinte. Au niveau des emplois à temps partiel, ce sont les femmes qui en représentent 82%. Elles représentent aussi 62% des emplois non qualifiés. Et elles sont 70% des travailleuses pauvres, avec un revenu inférieur à 964 euros mensuels. Au niveau des salaires, il y a une réduction de l'écart salarial entre les femmes et les hommes de 8% entre 1995 et 2023. Actuellement, on est à 22,2% d'écart, ce qui donne un salaire annuel moyen pour une femme de 21 340 euros. Et un salaire annuel moyen pour un homme de 27 430 euros. Donc on est à peu près sur une année, sur un écart de 6 000 euros. Pourtant, malgré cet écart, on pourrait se dire qu'en termes d'études, il y a un écart qui arrive déjà des études, mais non, 84% des jeunes femmes sont bachelières versus 75% des jeunes hommes, et 58% des femmes obtiennent un diplôme de l'enseignement supérieur contre seulement 47% des hommes. Donc, la facture se situe plus tard. Et au niveau des retraites, donc forcément, comme on a un écart important au niveau de la rémunération, ça se répercute forcément sur les pensions de retraite. Donc, il y a 50% en 2004 d'écart entre les pensions des retraites entre les femmes et les hommes, et on est encore à 39% d'écart en 2022. Donc, même s'il y a eu des progrès indéniables en termes d'égalité sur les dernières dizaines d'années, les inégalités sont encore criantes. Elles contribuent au continuum des violences entre la vie professionnelle des femmes et leur vie privée, des femmes et de toutes les victimes du patriarcat. Au niveau de la charge mentale, les femmes, selon l'INSEE, en 2010, s'occupent de 64% des charges domestiques et de 71% des tâches parentales au sein du foyer. Alors, le chiffre est un peu ancien parce que la prochaine étude aura lieu en 2028. Enfin, au niveau des violences sexistes et sexuelles, 89% des victimes sont des femmes, 91% des mises en cause sont des hommes. Et toute infraction sexiste confondue, les condamnations concernent à 96% les hommes. Au niveau du travail, ces violences sont aussi très prépondérantes. Elles sont au cœur des processus de domination et ont une incidence sur le travail. Elles sont une menace sur le travail et sur les carrières des femmes. Refus d'embauche, détérioration des conditions de travail, carrière bloquée, refus de promotion, et elles ont des conséquences désastreuses sur leur santé physique et morale. Au niveau des chiffres, en France, en 2024, ces violences au travail sont massives. Il y a 10 viols ou tentatives de viol par jour au travail. Il y a 30% de femmes qui sont victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle au travail. Il y a 80% des femmes salariées qui sont régulièrement confrontées à des attitudes ou à des comportements sexistes. Et sur toutes ces violences, il y a seulement 5% de femmes qui portent plainte. Au niveau de la représentation politique, il y a aussi une forte disparité. Par exemple, à l'Assemblée nationale, on a 366 hommes versus 209 femmes. Et au Sénat, on a 322 hommes versus 126 femmes. Et on se rend compte aussi que dans les élections locales, tout mandat confondu, les hommes briguent encore la majorité, que ce soit au conseil municipal, en tant que maire, au conseil régional ou à la présidence. Au niveau des minima sociaux, ce sont aussi les femmes qui sont impactées le plus lourdement. Elles sont bénéficiaires du RSA à 54%, elles sont bénéficiaires du RSA majoré à 96% et du minimum vieillesse à 56%.
La question du travail est très peu analysée du point de vue du courant masculinisme et des conséquences en fait sur les travailleuses et sur les travailleurs dans les entreprises. Alors, on va se focaliser un peu sur la question de Donald Trump. Dès son investiture début 2025, le président américain a pris toute une série de décrets, dont l'annulation d'un programme qui s'appelle le programme DEI, Diversité, Égalité, Inclusion, qui est un programme qui a été mis en place aux États-Unis dans les années 60 pour rééquilibrer une société qui était marquée par son passé ségrégationniste. Ce programme DEI, au fil du temps, il s'était étendu aux questions de genre, de sexe, d'ethnie, etc. Et il donnait des garanties dans le cadre de l'accès aux universités, à la recherche, à l'emploi. Et permettait en fait une sorte de programme qui donne accès à des populations qui jusque-là étaient plutôt en difficulté pour accéder soit aux études supérieures, soit à certains postes dans les entreprises en termes de responsabilité, de perspectives de carrière, etc. Et donc, Trump met fin à ce programme DEI et très vite, cette décision a des conséquences très très importantes puisque un très grand nombre d'entreprises américaines abandonnent dans la foulée leur politique de DEI. Alors ça va de Google, Amazon, Harley-Davidson, Pepsi, Walmart, Warner Bros. En fait, un nombre incroyable d'entreprises s'est immédiatement plié à la décision de Trump. Et en fait, il n'y en a que quelques-unes qui ont fait de la résistance officiellement, Apple, Costco, Coca. Et des personnes ont perdu leur job très vite, considérant qu'elles avaient été nommées, recrutées ou promues grâce au programme de DEI et non grâce à leur mérite. Dans la foulée de la décision de Trump, le gouvernement américain s'est adressé à la Commission européenne. Toutes les entreprises américaines qui étaient fournisseurs de l'État fédéral ou qui étaient exportatrices aux États-Unis pour qu'elles abandonnent leur politique DEI de lutte contre, ou de lutte contre les discriminations, faute de quoi elles perdraient leur contrat. Il y a des grands groupes européens qui lâchent l'affaire tout de suite. Vous avez GSK, un grand groupe pharmaceutique belge, vous avez Roche, vous avez Novartis et UBS, hein, par exemple, qui sont des grandes entreprises suisses qui ont lâché l'affaire. Vous avez SAP, un géant allemand des logiciels, qui abandonne dès mai 2025 plusieurs programmes en faveur de la promotion des femmes à l'intérieur de leur groupe. Du côté des entreprises françaises, alors là, c'est à la française, hein, c'est silence radio, comme on dit, à l'exception de L'Oréal qui a annoncé le maintien de sa DEI. Et côté organisation patronale, le MEDEF s'est offusqué officiellement de l'exigence américaine. Il l'a déclarée inadmissible tout en indiquant, je cite, que les entreprises assumeraient leurs valeurs autant que possible. Autant que possible. En se disant soucieux, je cite, de la performance économique. Donc on voit bien déjà dans quoi on s'inscrit. Mais déjà, on voit les conséquences en Europe des entreprises américaines qui sont implantées en Europe. Où là, on a des entreprises, par exemple Accenture en France, qui vient d'annoncer en France qu'ils abandonnent leur politique de DEI, diversité, égalité, inclusion. Donc, et la première décision, ça a été d'annoncer qu'ils abandonnaient son programme d'aide aux femmes pour annoncer au poste, pour accéder, pardon, au plus haut niveau de l'entreprise du groupe Accenture. On voit des effets qui se coulent. Il y a déjà des mouvements d'opinion qui se font jour. Par exemple, il y a eu un baromètre des transitions, la HEC Paris Nouvel Ops, en mars 2025, qui pose une question au public concerné. La marche arrière des entreprises américaines en matière de promotion de la diversité et de l'inclusion est-elle une bonne chose ou une mauvaise chose? 26% des cadres interrogés et 22% du grand public répondent que c'est une bonne chose. Plus d'un quart, des cadres interrogés trouvent que c'est une bonne chose d'abandonner les programmes de diversité, égalité, inclusion. Donc, ce qu'on peut dire, nous, en tant que syndicat, c'est que s'il existe des protections légales contre les discriminations en France et en Europe, évidemment que ce mouvement massif, il aura des conséquences dans les entreprises et que, évidemment, ça nécessite notre vigilance. Si la Commission européenne a indiqué en réponse au gouvernement américain qu'il n'y aurait aucun renoncement aux valeurs européennes, pour autant, on sait que l'idéologie réactionnaire et d'extrême droite, elle avance aussi en Europe, avec un certain nombre de dirigeants européens qui aujourd'hui se disent proches de Trump ou de Poutine, Pologne, Italie, Hongrie, etc.
On entend bien que les inégalités hommes-femmes perdurent et même régressent et que les autoritarismes se font entendre de plus en plus fort. Plus globalement, sur l'ensemble de la planète, ce sont les droits humains, le vivant et l'environnement qui sont attaqués. De nombreuses organisations, citoyens et citoyennes, agissent au quotidien contre des attaques de plus en plus vives du néolibéralisme libertarien. N'oublions pas de nous mobiliser, toutes et tous, quand nous le pouvons, pour les droits humains et contre la destruction du vivant et de l'environnement. Une chanson maintenant de Suzanne, « Je t'accuse », qui parle des insuffisances de la justice. Ensuite, une dernière intervention sur le masculinisme, suivie d'une analyse du programme EVAR.
D'abord, il y a eu Gisèle, et puis il y a eu Sophie, Lisa, Khadija et Marie, et ma copine Claire, et puis à moi aussi. Puis toutes celles qui n'ont jamais rien dit, mais t'en as rien à faire. Toi, ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire. Toi, et c'est bien ça le problème, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume. T'étais où? Sûrement que t'existes pas. Pourquoi t'es jamais là quand on ne croit plus qu'en toi? Demande à tous les gosses que tu ne protèges pas. Tous les monstres ne sont pas que dans les salles de cinéma. Mais t'en as rien à faire, toi. Ce sera qu'un nom de plus sur la liste, dans un fait divers, dans un tiroir. Des tonnes de vies classées sans suite, mais tu vas rien faire, toi. Ou faudrait qu'on t'harcèle, justice, est-ce qu'on doit te faire nous-mêmes, car je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. et j'assume. Pour toutes celles que la violence a condamnées au silence, je t'accuse. Pour celles qui avaient prévenu mais que t'as jamais entendu, je t'accuse. J'assume.
L'idéologie masculiniste conteste le bien fondé des droits accordés aux femmes et elle veut aussi s'attaquer aux droits du travail et donc faire reculer le bien fondé des revendications pour l'égalité au travail. Elle est incarnée par des influenceurs sur les réseaux sociaux, etc. Elle peut être incarnée par des artistes, elle peut être incarnée par des mouvements religieux. Par contre, dans le travail, aujourd'hui, il y a peu d'affirmations de dirigeants d'entreprises qui se revendiquent en tant que tel masculinisme. Par contre, il se passe des choses et ça peut s'appuyer sur des usages qui sont déjà borderline de notre point de vue sur les questions d'égalité. Par exemple, on a des organes directeurs des conseils d'administration des grandes entreprises qui sont pas ou peu ouverts aux femmes. Et il a fallu une loi qui impose des quotas pour que ça change. On sait que les cadres dirigeants et les organisations, les organismes de direction pratiquent beaucoup l'entre-soi masculin. On sait que les cercles informels d'hommes et de pouvoir sont pléthores dans les entreprises et que la cooptation y sévit. Et en France, en particulier, ça s'appuie sur une mode importante dans les entreprises, c'est la question du présentéisme. C'est-à-dire que le temps dans lequel on est dans l'entreprise, ça montre notre engagement pour l'entreprise et donc les dépassements. Même si on ne bosse pas, on reste le soir, on est entre collègues, etc. etc. Et ça favorise la constitution de réseaux d'hommes, ce qu'on n'a pas forcément dans d'autres pays européens, mais qu'on voit beaucoup en France. En plus, on a des très fortes résistances du MEDEF à la mise en place de la directive européenne sur la transparence des rémunérations. Le MEDEF résiste à ça parce que mettre en place la transparence des rémunérations telle que l'exige en fait cette directive européenne, hein, la France est très en retard toujours sur ces trucs-là. Donc évidemment, nous, notre perception de l'influence masculinisme dans le travail, c'est qu'on est confronté à la critique qui date hein, déjà d'un certain nombre d'années du bien fondé des revendications en matière d'égalité professionnelle, par exemple. Ça passe par la négation des situations d'inégalité et ça conduit en fait à délégitimer les politiques d'égalité professionnelle ou de lutte contre les discriminations qu'on avait gagnées finalement d'une certaine façon, même si ce n'était pas une victoire totale, mais il y avait quand même des avancées. Et on sent qu'il y a une relativisation qui peut s'installer. Relativisation des situations de sexisme, harcèlement sexuel ou de LGBT-phobie dans les lieux de travail. Le soutien entre mecs avec des réflexions qu'on entendait moins, mais qui reviennent. Est-ce que tu as des preuves? Elle n'exagère pas un peu? Il est un peu lourd, mais de là à parler de harcèlement, etc. Il ne gagne pas à tous les coups. Hein. Au procès d'Ubisoft récent de 2025, les trois cadres ont été personnellement condamnés de 12 mois à 3 ans de prison sur la question de harcèlement sexuel et moral et de tentative d'agression sexuelle. Ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est que dans le travail, seulement 5% des femmes victimes portent plainte. Ce qui est très, très, très peu. On a vu un autre procès récent qui a eu un grand retentissement hein, sur la question de la pornocriminalité, l'affaire French Bukkake. Alors, au-delà de l'horreur de cette situation-là, la pratique de formes de torture hein, dans l'industrie de la pornographie et avec des dirigeants, des messieurs qui se réfugient derrière la signature d'un contrat de travail pour considérer que le consentement était acquis et irrévocable. Alors que les victimes, les femmes, criaient leur refus de continuer à subir ce qui se passait précisément. Donc là, il y a une cinquantaine de victimes, des jeunes femmes précaires qui ont connu un parcours tourmenté. La Cour de cassation, elle retient les circonstances aggravantes de sexisme et de racisme. Et ça repart en cours d'assises. Bon, là, on n'a pas encore le résultat, mais les peines encourues sont beaucoup plus graves, hein, puisqu'elles peuvent aller de 20 à 30 ans. On voit que on a le bien fondé de lutter contre les discriminations au travail était acquis. On pensait qu'il était acquis, en tout cas d'être légitime à revendiquer qu'il n'y ait plus de discrimination au travail, ou le fait d'être légitime à revendiquer l'égalité femmes-hommes était non contesté. Il y a aujourd'hui un risque que ce soit remis en cause. On a des choses, par exemple, on voit des signaux. Par exemple, un certain nombre de collectivités ont décidé de répondre positivement à la revendication du congé hormonal, ont pris des avancées, des décisions qui sont en avance sur la loi. Donc là, on se retrouve avec une situation où ces avancées prises par certaines collectivités locales ou territoriales sont remises en cause par les préfets. Qui se fait tout récemment là, on vient d'avoir en Loire-Atlantique le jugement là de après les recours du préfet contre les décisions des collectivités de Saint-Nazaire, de Nantes, etc. Enfin, c'est un vrai scandale. La région PACA a en fer de lance de lutte contre l'écriture inclusive, a refusé de verser à une association qui s'appelle Courtragemé, hein, qui fait de la formation au métier du cinéma pour les jeunes des quartiers populaires. Elle a refusé de verser une subvention prévue par contrat pour 4 ans parce que l'association utilisait l'écriture inclusive. Il y a des reculs aussi dans les politiques de correction des inégalités salariales dans certaines entreprises qui mettaient des budgets spécifiques de correction des inégalités pour les femmes depuis un certain nombre d'années dans leurs accords salariaux, etc., et qui l'abandonnent. Là, Orange vient d'arrêter l'année dernière ce type de budget, par exemple. Voilà, parce que vous comprenez la tolérance du corps social à ce type de mesures. Donc les inégalités, c'est pas que les femmes, ça peut aussi être les hommes, voilà, etc., etc. Donc voilà, pour nous aujourd'hui, il y a une vigilance absolue à avoir sur ces questions-là, et on lâche rien, associations et services publics, on lâche rien, et dans les entreprises, jamais ne rien lâcher.
Je suis la dernière intervenante et je fais l'intervention sur l'EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, puisque, comme ça vient d'être décrit, il y a un enjeu majeur hein, de la montée des masculinismes, notamment dans la jeunesse. Et le programme EVARS, qui est un programme qui vient d'être adopté hein, et promulgué, qui concerne l'éducation nationale, est le moyen que l'institution scolaire se donne, institution scolaire largement poussée hein, par les organisations syndicales dont nous sommes les représentantes ici, mais pas que, hein, l'arc syndical était large. Et d'ailleurs, on tient à souligner que pour nous, l'adoption de ce programme en février 2025 est une vraie, vraie victoire syndicale, puisqu'on avait défendu le projet depuis de nombreuses années. Le communiqué intersyndical du 11 mars 2025 le qualifiait, hein, ce programme, d'essentiel pour favoriser la connaissance et l'estime de soi, pour encourager les relations saines entre les personnes et pour protéger les jeunes des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales. Effectivement, il y a un enjeu fondamental pour nous sur que révèlent les chiffres hein, des violences sexuelles subies par les mineurs, donc par nos élèves, hein, puisque la majorité des jeunes en France sont scolarisés. Donc, pour rappel, hein, quelques chiffres seulement, un jeune sur quatre déclare avoir déjà eu des rapports sexuels non consentis. Plus d'un tiers des 18-24 ans chez les garçons, hein, pensent qu'une femme peut prendre plaisir à être humiliée ou injuriée, et près d'un quart estiment qu'elle prend du plaisir à être forcée. 51% des garçons de 12 ans regardent de la pornographie chaque mois, avec une première exposition souvent avant l'âge de 10 ans. Et on connaît les effets de cette exposition précoce à la pornographie, hein. On va vers un virilisme dominant pour les garçons et vers une hypersexualisation des jeunes filles avec dans le viseur leur soumission, hein, bien évidemment. Donc, Haut Conseil à l'égalité, dans son rapport qui vient de sortir, pointe le fait que la montée des masculinismes est particulièrement prégnante chez les jeunes qui sont exposés à des contenus numériques. Donc ici, la question qui se pose pour nous, c'est bien sûr l'influence des réseaux sociaux dans la jeunesse, avec par exemple l'application TikTok, hein, qui porte, hein, en elle-même des contenus extrêmement masculinistes, avec des discours qui appellent à dominer, à humilier, à dénigrer les femmes. Il est intéressant de souligner avec la journaliste Pauline Ferrari, que TikTok a un rôle central dans la diffusion des discours masculinistes et qu'elle-même décrit cette plateforme, je cite, comme un catalyseur dans ce processus de radicalisation dans la jeunesse, chez les jeunes. Elle utilise une étude de l'Université de Belfast qui révèle qu'en moyenne, les jeunes hommes sont exposés à de tels contenus en moins de 20 minutes de navigation. Notamment quand ils font des recherches sur des thèmes qui semblent tout à fait anodins, tels que le sport, le développement personnel, la santé mentale, la séduction. Si on fait quelques recherches sur Google, c'est elle qui le dit, hein, en tapant comment draguer, comment avoir plus confiance en soi, comment être plus fort, très vite, on peut tomber sur des contenus masculinistes. Au départ, le premier contenu peut paraître peu signifiant, peu important, mais très vite le discours se radicalise, soit à travers les contenus qu'on regarde sur différentes plateformes, hein, qu'on peut citer, Instagram, Snapchat, Facebook, X, soit par des salons de discussion Discord ou jeuxvideo.com, où là on retrouve, hein, dans la typologie établie par Stéphanie Lamy la fameuse catégorie des incels, qui est la plus connue, mais qui n'est pas l'unique catégorie masculiniste. Ou encore, soit en s'intégrant à certaines conversations un peu plus privées sur des canaux tels que Telegram ou Signal. Donc il faut noter que ces vidéos représentent d'ailleurs un modèle économique bien particulier, elles sont monétisées. Plus ces vidéos sont regardées, plus elles rapportent à leur auteur. Coup, on comprend l'intérêt de la culture du clash et du conflit. D'ailleurs, devant la commission parlementaire, un célèbre influenceur, hein, Alexis Chance, disait qu'il s'était vite rendu compte que ce qui fonctionnait le mieux sur ces plateformes, c'était bien sûr un contenu choquant. Et on sait, hein, l'influence, bien sûr, que ces plateformes ont sur les adolescents et sur nos élèves. Par conséquent, il est important donc d'aborder la question du programme EVARS, puisque c'est la façon ou c'est la réponse de l'institution à cette montée des masculinismes et à la prise en charge des violences sexistes et sexuelles dont nos élèves sont à la fois les victimes et les auteurs, bien évidemment. Le programme EVARS se décline en trois axes. Premier axe, se connaître, vivre et grandir avec son corps. Deuxième axe, rencontrer les autres, y construire des relations, s'y épanouir. Et enfin, trouver sa place dans la société, être libre et responsable. Ce qui est très intéressant dans le programme EVARS pour les enseignants et les enseignantes, c'est que l'entrée est double. Elle est à la fois disciplinaire et pluriprofessionnelle. En effet, chaque enseignant, chaque enseignante peut, dans ses cours disciplinaires, hein, donc de matière dans le second degré, aborder un certain nombre de thématiques en lien avec ses programmes. C'est d'ailleurs ce que font les enseignants et les enseignantes globalement, hein, depuis de nombreuses années. Mais là, avec le programme EVARS, ce qui devient intéressant, c'est que, il va contraindre ou essayer de contraindre davantage l'institution à permettre à tous les élèves de bénéficier de trois séances annuelles de 2 heures par niveau et ce, en demi-groupe. Alors là, on se heurte à un écueil, hein, que nos organisations syndicales ont déjà largement souligné, c'est bien sûr la question de la formation des enseignants et des enseignantes. Nous avons besoin de formation sur les thèmes, pour la posture. On a besoin d'avoir accès à des outils adaptés. On a besoin d'être formé sur le recueil de la parole des élèves. Pour animer ces séances EVARS, et c'est bien dit dans les programmes, il faut être 2 personnels formés. Et donc, ça nécessite du temps de concertation, puisqu'il faut préparer et pouvoir l'intégrer à une progression. De même, le programme stipule bien que ces séances doivent être animées, peuvent être animées avec un personnel autre qu'enseignant. Ça nécessite bien sûr que ces personnels soient présents, soient nommés, soient en poste et du temps et soient eux aussi formés. Donc là, dès qu'on soulève, si je puis dire, un petit peu la couverture, hein, on se rend compte des difficultés de mise en œuvre qui se posent, hein, puisque de formation, de temps de formation et de temps de concertation, on en est encore un petit peu loin. Et j'insiste, le Haut Conseil à l'égalité dans ses recommandations et dans la partie spécifique de l'EVARS, à la page 39, dit bien qu'il faut que les enseignants et les enseignantes, ainsi que les autres personnels de l'éducation nationale, soient formés aussi bien initialement que sur la formation continue. Enfin, la mise en œuvre de ce programme EVARS peut être épaulée par des associations agréées. Je pense par exemple au planning familial. Au passage, on tenait à signaler quand même que le planning familial vient de se voir rogner une grande partie de ses subventions par la région. Hein. Donc nous, on a besoin du planning familial. Le planning familial a plus de difficultés à fonctionner. Et même chose, hein, pour travailler avec ces associations agréées, il nous faut du temps qu'on n'a pas toujours hein, sur nos lieux de travail. Donc voilà les enjeux du programme EVARS à nos yeux, mais avant de terminer, je pense qu'il faut aborder la question des résistances à l'EVARS, parce que si c'est une victoire pour nos organisations et puis pour l'éducation nationale, des collectifs de parents d'élèves qui se disent sans confession ni parti, des associations qui affirment, je cite, « œuvrer en toute indépendance et qui prétendent agir pour la protection des enfants » se sont manifestées. Depuis la publication du programme en février 2025, ils se font connaître, ils distribuent des tracts, ils diffusent des vidéos sur les réseaux sociaux. Des pressions peuvent être exercées sur les enseignants-enseignantes hein, qui mettent en œuvre ces séances. Et puis, il y a eu des mots d'ordre de retrait des écoles et des collèges. Hein. On pense par exemple au 10 mars dernier hein, où un appel sur les réseaux sociaux a été relayé pour ne pas envoyer les élèves à l'école ce jour-là, le 10 mars 2025. Parmi les principaux groupes opposés à l'EVARS, bon, il y en a plusieurs, mais je citerai Maman Louve, qui est une association qui a été créée en 2021. C'était des mères qui étaient contre le port du masque à l'école, contre la vaccination, hein, qu'elles considèrent comme des violences exercées à l'égard des enfants. Il y a aussi un groupe qui s'appelle SOS Éducation, qui défend des valeurs conservatrices. Et puis, on peut voir des affiches, des pétitions, toute une iconographie. Par exemple, on peut lire un slogan du genre, je cite, « À l'école, enseignez-moi les divisions, pas l'éjaculation ». C'est une pétition qui a été signée par des milliers de personnes. En avril 2025, 275 parents vigilants ont déposé un recours devant le Conseil d'État pour abus de pouvoir. Avec le programme EVARS, hein, ils ont parlé d'abus de pouvoir. Et c'était bien sûr un recours contre la mise en œuvre du programme EVARS. Il est important pour nous de signaler que le programme d'État a rejeté, heureusement, ce recours et qu'il a réaffirmé que l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle permet d'éduquer les élèves au respect de l'égale dignité des êtres humains, à la lutte contre les discriminations, que ce programme contribue à prévenir les atteintes à l'intégrité physique et psychique des personnes. Et il a bien ajouté, ce qui est important aussi, que l'EVARS repose sur des notions qui résultent de l'état de la science ou de l'état du droit, qui doivent être enseignées de manière neutre et objective, sans inciter les élèves à adopter un comportement donné. Autant dire que c'est ce que vont faire hein, les personnels de l'éducation nationale dans les années à venir, dès que le paquet aura été mis sur la formation et sur le temps de concertation.
1, 2, 3. Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chiens et chats, on détestait les redoublants. Souffre douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut, on s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangines, ça nous aurait gagné du temps. Au coup d'à coup, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes,
toutes aussi bonnes,
malgré l'école et les parents.
Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Les grandes bringues ou blanches neiges, c'était à qui amènerait tous les boutons du collège à l'accompagner sur le piège.
On aurait pu rester Frangine, ça nous aurait gagné du temps, bras dessus dessous, j'imagine. Avant que la vie les assomme,
ne les assomme,
faire des hommes, pas des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que falaise ou chiffon.
On aurait pu rester Frangine,
ça nous aurait gagné du temps, main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu se regarder, voir qu'on était tout assez belles,
tout assez belles,
et belles celles qui n'ont pas le temps.
C'est tout pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous montre en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour que l'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond.
Si on se retrouvait Frangine, on n'aurait pas perdu son temps, unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant. Et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
Cette émission se termine. Merci aux camarades de l'Intersyndicale 44 de leur participation. Et merci à vous tous et toutes d'être restés avec nous. On se retrouve en manifestation le 8 mars ou le 7 mars sur Nantes. Vous serez prévenus avant. Prochaine émission le 10 mars à 17h. Nous parlerons santé. Beaucoup de sujets à traiter. Il faudra choisir. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bisous, bisous. See you soon.
Nous sommes là,
nous serons là. On l'a été pour contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et on le sera contre le projet d'Amazon. Merci.
Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même et partout. La révolte gronde.
Autre monde, autre monde. Un écho des luttes sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber.
On lâche rien.
Autre monde,
autre monde, autre monde.